Le journal Aurélie Kiffer.
Bonsoir à tous. Le procès en destitution de Donald Trump sera-t-il vite expédié? Le camp présidentiel espère accélérer la procédure. Explication dans un instant de Grégory Phillips. Contrôle renforcé en Asie face à la propagation d'un nouveau virus. Il a déjà provoqué la mort de 6 personnes en Chine. Reportage de Dominique André. Les demandes d'asile ont augmenté de plus de 7% l'an dernier, tandis que les expulsions ont enregistré une hausse de 19%. Un groupe d'experts critique la politique de l'exécutif. Et puis c'est le 50e jour de grève à Radio France. Nous ferons le point sur le conflit avec Maxime Tellier. Le procès en destitution de Donald Trump commence réellement aujourd'hui avec l'ouverture des débats au Sénat. Le président américain est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave au travail du Congrès. Au cœur du scandale, l'affaire ukrainienne, un coup de téléphone au cours duquel Donald Trump a demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur le démocrate Joe Biden, adversaire potentiel à la prochaine élection présidentielle. Les démocrates accusent le président d'avoir exercé un chantage sur Kiev en menaçant de bloquer une aide militaire si Kiev ne lançait pas d'enquête. Vous êtes donc au Capitole, Grégory Phillips, où la première audience doit s'ouvrir dans une heure. Elle devrait être formelle, centrée sur les questions de procédure, Grégory.
Oui, les 100 sénateurs américains seront tous là dans une heure derrière cette porte en bois, privés de leur téléphone portable et condamnés au silence pendant les exposés, comme le prévoit la Constitution américaine. Et cet après-midi ou tard ce soir, ils vont en premier lieu devoir tomber d'accord sur le déroulé du procès. Puis à partir de demain, chaque camp, démocrate en premier, républicain ensuite, disposera de 24 heures pour présenter ses arguments. Et c'est ensuite seulement, sans doute en début de semaine prochaine, que le Sénat se prononcera sur la convocation ou non de témoins, comme le veut l'opposition démocrate. On sait en tout cas que la Maison-Blanche est le patron de la majorité républicaine au Sénat. Mitch McConnell veut un procès express, sans témoins, avec des débats chaque jour, sauf les dimanches, de 13h à très tard, peut-être minuit ou au-delà. Alors les sénateurs démocrates s'indignent. Pourquoi des débats au cœur de la nuit? Pourquoi pas en plein jour, si ce n'est pour cacher quelque chose, nous disait tout à l'heure le patron de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, le même Schumer qui parle aujourd'hui de crimes contre la démocratie commis par le 45e président des États-Unis. Même si dans ce procès, Aurélie, l'accusé ne sera pas là, représenté par 9 avocats, le jury est partial avec une majorité de sénateurs républicains. Et à l'issue de cette procédure, eh bien, l'issue est à peu près connue de tous. Ce sera sans aucun doute l'acquittement pour Donald Trump.
Donald Trump qui est loin de Washington, à Davos, au Forum économique mondial où il a vanté son bilan économique et l'abondante production d'hydrocarbures des États-Unis. Et devant la jeune Suédoise Greta Thunberg venue écouter son discours, le président américain a traité les militants écologistes de prophètes de malheur. La peur et le doute, explique-t-il, ne sont pas de bons modes de pensée. Pas de guerre commerciale en vue dans l'immédiat entre les États-Unis et la France. Suite à la taxe sur les activités du numérique votée par Paris l'été dernier, les Américains avaient menacé la France de sanctions commerciales pouvant aller jusqu'à 2,4 milliards d'euros. Finalement, Donald Trump et Emmanuel Macron ont trouvé un arrangement dimanche. Et on en sait un peu plus maintenant sur son contenu, Marie Viennot. L'exécution de la loi va être suspendue en 2020.
La taxe sur les géants du numérique s'applique depuis l'an dernier. Pas uniquement aux géants américains d'ailleurs, mais à toutes les entreprises du numérique qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros dans le monde. En novembre dernier, donc, les entreprises concernées, une trentaine, ont versé un acompte qu'elles doivent compléter en avril. Cela ne change pas. Il n'y a pas de retrait de la taxe en France. En revanche, son exécution va être suspendue pour 2020. Au lieu de verser un acompte en avril pour la taxe qu'elles doivent au titre de l'année 2020 et un second en novembre, les entreprises du numérique n'auront rien à payer jusqu'en décembre prochain. À ce moment-là, deux possibilités. Soit les 135 pays qui négocient sous l'égide de l'OCDE trouvent une solution mondiale pour la taxation des entreprises du numérique, et à ce moment-là, la France retire sa taxe, adopte les règles de l'OCDE, soit ils ne trouvent pas de solution et la taxe française s'applique comme prévu. À partir de là, les Américains peuvent de nouveau menacer de sanctions commerciales et les Français, avec les Européens, faire de même. Tout repose donc sur la négociation en cours à l'OCDE. Peut-elle aboutir d'ici la fin de l'année? Rien n'est acquis ni perdu. Mais pour le moment, les Américains ont des positions très éloignées de celles des Européens. Il y a quelques semaines, le ministre des Finances américain a même proposé de rendre cette taxe sur le numérique optionnelle, autrement dit, aux entreprises de décider si elles souhaitaient la payer ou pas. Une taxe optionnelle, inacceptable, avait alors jugé Bruno Le Maire, qui doit rencontrer justement son homologue américain demain à Davos.
Marie Viennot, près de 300 infections et déjà 6 morts. Le nouveau virus qui touche la Chine inquiète les autorités de santé. Il est proche de celui qui avait provoqué l'épidémie de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002-2003. Et la transmission humaine a été confirmée. Or, des centaines de millions de Chinois sont en partance dans les gares et les aéroports pour fêter en famille le nouvel an lunaire. Notre correspondante en Chine, Dominique André, s'est rendue dans l'une des principales gares de Pékin.
La gare principale de Pékin est bondée. Des familles arrivent de province, d'autres partent avec les bras chargés de cadeaux. Beaucoup portent un masque de protection sur le visage. Dans la boutique de la gare, la vendeuse a vendu en quelques heures son stock de masques.
Maintenant, il ne reste que très peu de masques. J'ai vendu tous les masques et les plus sophistiqués sont même déjà épuisés. Beaucoup de passagers qui prennent le train en ont acheté et presque tous les passagers portent le masque depuis hier soir.
Masque sur le visage, une maman est venue chercher sa fille à la gare.
Je crains d'être infectée par le coronavirus dans mes poumons. Je suis en train d'attendre ma fille pour passer le nouvel an avec elle. Elle me dit qu'il faut absolument porter le masque et qu'il ne faut pas aller dans les zones où il y a beaucoup de monde. C'est terrible.
Monsieur Dong, 77 ans, est en train de compter son argent. Il s'est fait rembourser son billet de train pour le Tianxi, dans le sud de la Chine.
En ce moment, la pneumonie du coronavirus se propage, donc j'essaie de ne pas sortir. Moi, je n'ai rien d'urgent à faire dans la journée. Je pense avant tout à ma santé et j'ai annulé mon billet de train pour aller voir ma famille dans mon pays natal. Il y aurait une période où le virus est silencieux. On dit qu'il y aura peut-être une propagation plus large de l'épidémie après le nouvel an. J'ai entendu parler de ça. C'est mieux que je reste à la maison. Bien sûr que je n'irai pas à Wuhan.
Demain, le vice-ministre de la Commission chargée de la Santé doit s'exprimer devant la presse à Pékin pour présenter les mesures de prévention et de contrôle du nouveau virus.
Et des cas sont également apparus au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande et à Taïwan. En Inde, la résistance continue contre la loi sur la citoyenneté. Adoptée par le Parlement le mois dernier, elle est dénoncée par l'opposition politique et par une importante frange de la population qui l'accuse d'être islamophobe. Cette loi facilite en effet l'accès à la nationalité indienne de personnes venant de pays voisins, sauf les musulmans. Plusieurs États régionaux ont déjà refusé d'appliquer cette loi et le Kerala, dans le sud du pays, va encore plus loin. Ses dirigeants régionaux ne veulent pas effectuer le recensement complet de la population de leur État. Certaines questions posées risquant de servir à la discrimination religieuse, Sébastien Farcy.
Nos agents ne demanderont pas la date de naissance des habitants ni les origines de leurs parents. Pour les autorités du Kerala, ces deux éléments prévus dans le questionnaire du recensement des résidents pourraient servir à identifier les récents immigrés en Inde et entraîner le harcèlement des musulmans par le gouvernement fédéral, ceci alors que les personnes des autres religions seront, elles, protégées par la nouvelle loi sur la citoyenneté. Le Kerala prend encore une fois la tête de la contestation à cette loi controversée. Son Parlement a déjà adopté il y a 3 semaines une résolution qui juge cette réforme anticonstitutionnelle, un geste suivi par le Parlement du Pendjab, également dans l'opposition. Mais ces régions n'ont pas le pouvoir d'empêcher l'application de cette loi fédérale, donc le Kerala utilise ses moyens administratifs pour opérer une résistance passive. Cet État méridional a également déposé un recours de constitutionnalité devant la Cour suprême, qui sera examiné très prochainement avec les 64 autres appels similaires déposés par des politiciens ou de simples citoyens révoltés par cette loi sur la citoyenneté.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI en Inde. C'est l'application de l'accord que le Mexique a signé en juin dernier avec les États-Unis pour barrer la route aux migrants qui tentent de traverser son territoire. Des milliers de membres de la garde nationale ont été déployés au sud du Mexique et hier, ils ont refoulé plusieurs centaines de personnes provenant du Honduras alors qu'elles tentaient de traverser le fleuve. La correspondance d'Emmanuel Stills.
Le Mexique a brisé la volonté des quelques 3500 migrants qui se sont présentés à ses portes dans l'intention de traverser le pays pour se rendre aux États-Unis. Samedi dernier, une première tentative pour forcer l'entrée du principal poste frontière dans le sud s'est soldée par un échec cuisant. Des renforts de la garde nationale étaient postés aux abords du fleuve Suchiate. Sur l'autre rive, côté guatémaltèque, plusieurs milliers de migrants se sont regroupés au fil du week-end. Le président López Obrador avait prévenu la caravane. Le Mexique n'est pas une zone de transit, mais il y aura des emplois dans le sud du pays pour ceux qui acceptent d'entrer de manière ordonnée. Lundi matin, les migrants ont envoyé une lettre au président. « Ouvrez-nous les portes », le supplie-t-il encore une fois. La réponse se faisant attendre, des familles entières ont traversé le fleuve à pied. La garde nationale les a reçus par des tirs de gaz lacrymogène. Ceux qui ont réussi à entrer ont été arrêtés et seront renvoyés dans leur pays. tout comme ceux qui s'étaient inscrits pour obtenir un visa de travail, trompés par les belles paroles de López Obrador. Finalement, les emplois promis par le président sont dans leur pays d'origine, dans le cadre d'un programme mexicain pour le développement de l'Amérique centrale. Rompus par le désespoir et l'épuisement, confrontés à la résistance implacable assortie de discours ambigus des autorités mexicaines, plusieurs centaines de migrants font aujourd'hui demi-tour. La caravane se dissout.
En France, les demandes d'asile ont augmenté de 7,3% l'an dernier. Plus de 132 000 dossiers ont été déposés à l'OFPRA. Les demandeurs d'asile viennent principalement d'Afghanistan, de Guinée, de Géorgie et d'Albanie. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont par ailleurs augmenté de 19% avec près de 24 000 éloignements. En parallèle, un groupe de praticiens du droit des étrangers publie un rapport critique aujourd'hui. Ancien directeur de l'OFPRA, chercheur confronté au droit des étrangers sur le terrain. Ils demandent des politiques migratoires conformes à toutes les exigences de la République et selon eux, l'aura du lieu, il y a beaucoup à faire.
Oui, à commencer justement par arrêter d'envisager l'immigration par les chiffres et le nombre d'étrangers en France. Selon ces praticiens, il faut commencer par simplifier drastiquement le droit des étrangers qui est incompréhensible d'abord pour les migrants mais aussi pour les professionnels qui les accompagnent. Refonder ce droit est le seul moyen pour qu'il soit respecté selon Pascal Brice, l'ancien directeur général de l'OFPRA.
Nous pensons qu'il faut maintenant changer de logique, simplifier l'accès au titre de séjour de manière à accorder des titres de séjour ou, lorsque les personnes ne relèvent pas d'un titre de séjour, effectivement les reconduire hors du territoire français. La pierre angulaire de nos propositions est de faire en sorte que dans la loi, l'on inscrive un principe simple. En 6 mois, par exemple, dans un délai court, tout étranger devrait se voir soit reconnaître un titre de séjour, soit être reconduit.
Et de ce principe découlent les mesures proposées comme la création d'un haut commissariat à l'asile et aux migrations ou encore l'allongement de la durée des titres de séjour. Leur renouvellement fait perdre un temps considérable à l'administration et pose aussi de gros problèmes pour l'insertion professionnelle des étrangers. Or, selon Pascal Girard, professionnel du secteur, l'insertion professionnelle est le principal vecteur de l'intégration des étrangers. Il doit être renforcé.
On a travaillé sur les besoins des entreprises, les métiers en tension, et la possibilité d'apprendre le français, bien sûr, et de les orienter sur ces métiers en tension à grande échelle. Parce que plus on attend après l'obtention du statut, plus les personnes se mettent en attente d'être bénéficiaires du RSA, ce qui n'est quand même pas un avenir glorieux que notre pays peut leur offrir.
En tout, 25 grandes mesures ont été proposées. Le rapport a été envoyé aujourd'hui à l'ensemble des décideurs politiques.
Laura Dulieu. Avant les cérémonies officielles, quelques notes de musique pour ne pas oublier. Lundi 27 janvier, cela fera 75 ans que le plus grand camp de concentration et d'extermination nazie a été libéré par l'armée rouge. Plus +1 100 000 personnes, dont 1 million de juifs, ont trouvé la mort à Auschwitz. Et ce matin, devant le camp de Birkenau, une pianiste a joué une œuvre du compositeur autrichien Victor Ullmann, compositeur tué dans les chambres à gaz d'Auschwitz en octobre 1944. Et la pianiste a joué dans un wagon ayant transporté des juifs du camp de Drancy jusqu'à Auschwitz, Thomas Giraudeau.
Le concert pour piano et orchestre de Victor Ullmann résonne dans le sinistre wagon. Placé sur la Judenrampe, c'est ici que des centaines de milliers de juifs sont arrivés à Auschwitz. La pianiste Natalia Romanenko espère ainsi rappeler le terrible destin d'Ullmann et de tant d'autres artistes morts dans les camps.
Mais encore une fois, on peut parler beaucoup, mais si on cesse de jouer Mozart, il n'existera plus. Pour pouvoir encore parler et préserver la mémoire pendant des décennies et des siècles, il n'y a que ça. C'est la musique qui alimente ça.
Les notes peut-être plus fortes que les paroles, c'est aussi ce que pense Marek Alter, l'écrivain juif d'origine polonaise, organisateur de l'événement, s'inquiète pour l'avenir, quand les derniers survivants d'Auschwitz auront disparu.
Il n'y a plus personne pour dire « j'y étais » et ils vont rester des livres, des témoignages. Et les livres, on n'est pas obligé de les lire. On peut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Parce que si on oublie, on ouvre la porte à d'autres crimes.
Dans l'assistance, un homme est particulièrement ému, Hassen Chalgoumi, l'imam de Drancy en banlieue parisienne, la ville d'où sont partis tant de convois de déportés vers les camps.
Moi je trouve que c'est un devoir dédié à toute l'humanité. C'est pas seulement pour les juifs, pour toutes les minorités. Ils veulent éviter le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre. C'est par la commémoration, penser et prier, c'est comme ça on se protège.
À la tribune, la vice-présidente du Parlement européen insiste, il est facile, plus confortable selon elle, d'oublier des pans de l'histoire, surtout les plus sombres.
Emmanuel Macron doit arriver ce soir à Jérusalem où sera commémorée jeudi la libération du camp d'Auschwitz. Le chef de l'État prévoit aussi d'aller à la rencontre de la communauté française d'Israël avec qui il devrait évoquer la lutte contre l'antisémitisme. Selon une enquête menée par l'IFOP pour la Fondation pour l'innovation politique et pour l'American Jewish Committee, un juif sur trois se sent menacé en France. 70% des juifs interrogés disent même avoir subi un acte antisémite dans leur vie, chiffre qui atteint 84% chez les 18-24 ans. 39% des jeunes disent avoir été frappés parce que juifs. Bonsoir Pauline Renoir.
Bonsoir.
Vous avez recueilli le témoignage d'une étudiante parisienne.
Oui, j'ai rencontré Anna, 24 ans, juive séfarade, attachée à sa culture mais pas pratiquante. Ses premières insultes, elle les a reçues à l'école primaire.
C'était dans la cour de récréation avec un ami à moi. Je pense que le ton a monté, on a commencé un peu à se disputer, mais comme des enfants dans une cour de récré. Et il y a un moment en espagnol où il m'a dit une insulte que j'ai pas comprise dès le début, qui voulait dire en fait juif de merde.
Et l'antisémitisme l'a suivi jusqu'à chez elle.
Quand j'ai emménagé dans mon appartement, on a vu une grosse croix gammée gravée dans la pierre du hall, là où on attend l'ascenseur. Je pense qu'on l'a oublié en fait au fur et à mesure. Et mon père, un jour, à mon avis, n'a plus supporté voir ce truc quand il attendait son ascenseur pour rentrer chez lui. Et il a comblé la croix gammée avec ses clés sur la pierre. Donc aujourd'hui, c'est un carré avec une croix à l'intérieur.
Puis Anna grandit, elle s'intéresse au conflit israélo-palestinien dans le cadre de ses études. Elle passe du temps sur les réseaux sociaux et assiste impuissante à la montée de la haine.
J'ai vu un post d'un ancien ami à moi. Il y avait marqué « Hitler a dit » en citation. J'ai tué 6 millions de juifs, mais je vous en ai laissé quelques-uns pour que vous voyez pourquoi je l'ai fait. Fin de citation. Et ce mec-là, donc mon pote-là, me disait « Pour moi, il a tout dit ». Et moi, ça m'a traumatisé. Ce parallèle-là, il était impossible, il était insupportable. En réflexe premier, je suis allée supprimer directement le nom de famille de ma mère.
Effacer son nom de Facebook, c'est une stratégie d'évitement, tout comme changer de quartier. 43% des juifs interrogés l'ont déjà fait. Un tiers ne porte plus la kippa. Plus alarmant encore, 70% des victimes ne portent pas plainte, selon l'étude.
Je vous invite à écouter l'émission Grand Reportage diffusée vendredi dernier. La France, Israël et moi, des témoignages de Français partis s'installer en Israël. C'est le 50e jour de grève aujourd'hui à Radio France, un mouvement d'une durée inédite dans l'histoire de la radio publique. Et à la mi-journée, la grève a été reconduite en Assemblée Générale par la CGT. C'est le seul syndicat qui appelle encore à cesser le travail, mais les autres rejettent eux aussi le plan de la direction. 60 millions d'euros d'économies et 299 suppressions de postes. Alors comment sortir de la crise? Vous avez posé la question au syndicat, Maxime Tellier.
Oui, à commencer par le syndicat majoritaire à Radio France, c'est le seul à continuer la grève, qui est donc la CGT. Et qui a encore prouvé sa capacité de mobilisation avec des antennes blanches toute la journée, y compris en matinale sur France Culture, France Inter, France Info notamment. Ce midi, les élus et la base de la CGT semblaient toujours très déterminés.
Bonjour, 50e jour de grève à Radio France aujourd'hui.
C'était l'ambiance au début de l'Assemblée Générale qui a reconduit la grève ce midi avec des salariés très remontés qui prennent la parole, qui débattent, qui témoignent, qui lancent des idées. Certains demandent même une motion de défiance contre Sybille Veil, la présidente de Radio France, ou même contre le ministre de la Culture, Franck Riester. L'idée n'a pas été retenue. En tout cas, pas question de céder face à la direction. Lionel Thompson est élu CGT, journaliste à France Inter.
Depuis le début, on conteste les économies qui nous sont demandées par le gouvernement et cette grève s'adresse à notre PDG, mais elle s'adresse aussi à notre tutelle et à Franck Riester qui est totalement absent.
Les syndicats ont donc un seul interlocuteur, la direction, qui n'a accepté que très récemment de les rencontrer. C'était ce mois-ci, en janvier, et encore avec très peu de résultats. L'idée actuellement débattue, ce serait de remplacer le plan de départ volontaire par une rupture conventionnelle collective, une RCC, que la direction considérerait comme moins contraignant d'après les syndicats. Mais peu importe la forme juridique de ces suppressions de postes, hein, disent les syndicats, ils veulent surtout limiter au maximum les départs. C'est le cas du SNJ, le Syndicat national des journalistes, représenté par Valeria Emmanuelet.
À un certain moment, quand les syndicats vous proposent une solution qui consiste quand même à faire les économies demandées et que la direction traîne des pieds, on se demande effectivement si tout ça, c'est vraiment pour faire des économies ou si c'est simplement pour afficher le fait qu'on est un bon petit soldat et qu'on répond oui présent à toutes les demandes du gouvernement.
Et pour l'instant, c'est donc une grève sans fin. Ce soir et demain, les syndicats sont reçus un à un par la direction qui n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons de la grève, Radio France, rendez-vous sur franceculture.fr. La sécurité sanitaire des protections féminines reste à améliorer. Les protections intimes internes, tampons et coupes menstruelles présentent un risque rare, mais grave, de choc toxique. C'est ce que pointe l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dans un nouveau rapport. Et elle adresse, Tara Schlegel, des recommandations aux industriels.
Oui, déjà en 2017, l'ANSES avait sondé 1085 femmes et noté que bien souvent, elles n'utilisent pas correctement leurs tampons ou leurs coupes menstruelles. 79% des femmes disent garder le même tampon hygiénique toute la nuit et 30% la même coupe menstruelle toute une journée. Pour éviter cela, l'ANSES recommande d'ailleurs de ne pas utiliser de tampons ultra absorbants car cette trop longue durée peut occasionner un choc toxique, un SCT très dangereux. Certaines femmes sont en effet porteuses d'une souche particulière de staphylocoque doré qui produit une toxine et si le sang des règles s'accumule trop longtemps dans le corps de la femme, cette toxine peut passer dans l'organisme et avoir des conséquences dramatiques. L'ANSES recommande de mieux informer les femmes, d'inscrire systématiquement ce risque sur les emballages des coupes menstruelles comme c'est déjà noté pour les tampons hygiéniques, et de sensibiliser les médecins et les services d'urgence, car les symptômes sont mal connus, détaille la pharmacienne toxicologue Aurélie Mathieu, qui a coordonné l'expertise pour l'ANSES. Ces symptômes peuvent ressembler à une grippe.
Avec une forte fièvre, une baisse de la tension artérielle, une éruption cutanée. Et puis au bout de 2-3 jours, des manifestations au niveau de différents organes vont apparaître avec des troubles digestifs, des douleurs musculaires, des atteintes rénales, hépatiques, neurologiques et ou hématologiques. La pire conséquence, ça peut aller jusqu'au décès si la prise en charge ne s'est pas faite assez rapidement.
Une vingtaine de femmes sont victimes de chocs toxiques chaque année, d'où l'importance de sensibiliser les utilisatrices. Et puis tout un volet de la vie concerne aussi la composition des protections intimes, mais a priori il n'y a pas de risque chimique.
Tara Schlegel, le temps sera toujours très perturbé demain sur les Pyrénées-Orientales avec des pluies soutenues, de la neige abondante dès 1600 mètres et un risque d'avalanche. Les nuages s'étendront sur le sud-ouest, ailleurs la journée sera beaucoup plus calme avec des éclaircies. Il fera froid sur la moitié nord, de moins 4 à 0 au petit matin, de 5 à 9. L'après-midi, plus au sud, entre 1 et 11 degrés au lever du jour, de 8 à 15 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.